Forum Opéra. Émission spéciale.
Et nous sommes avec Clément Cogitor, qui met en scène les Indes galantes de Rameau à l'Opéra de Paris jusqu'au 15 octobre. Clément Cogitor, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer par aborder l'elephant in the room à propos de cet opéra. C'est que c'est un opéra qui parle de l'identité et aussi du regard de l'étranger. Alors, le regard de l'étranger au XVIIIe siècle a parfois eu quelque chose de paradoxal. Il était à la fois cause d'exotisme, d'amusement, et puis il inspirait aussi, par exemple, aux Habsbourg de grandes peurs, vu que les Ottomans étaient aux portes de l'Europe. Alors, comment avez-vous examiné ce regard XVIIIe sur l'étranger et quels sont les parallèles contemporains qui vous sont venus à l'esprit?
Disons, ce qui est intéressant dans le livret, dans le regard sur les peuples non occidentaux ou non européens à ce moment-là, c'est que ça apparaît comme quelque chose de très progressiste pour l'époque. Et Fuselier, même dans la préface, parle de... Enfin, il y a une vraie curiosité, ça témoigne d'un vrai humanisme de regarder comment d'autres peuples vivent, quelles sont leurs cultures, quelles sont leurs coutumes. Mais il y a une forme de condescendance dans ce regard qui est donné sur cet autre, qui est... Enfin, sur une sorte d'exotisme très fantasmé, qui n'a que très peu à voir avec la réalité, où on est souvent, pour moi, à part deux personnages qui sont vraiment pétris de contradictions, d'ambiguïté, et en ce sens-là qui nous ressemblent, on est surtout face à des stéréotypes, à des personnages qui se définissent uniquement par leur appartenance à une communauté, mais qui peut être aussi le stéréotype du français ou de l'espagnol. Et voilà, ça m'a... Cette question-là, moi, m'intéresse. Parce que moi, en tant que metteur en scène ou en tant qu'auteur, enfin, personne qui s'intéresse à la question du personnage, je me dis qu'un stéréotype, c'est un personnage qui n'a pas été assez entendu, qui n'a pas pu raconter son histoire. Et que mon travail, c'est d'entamer une sorte de dialogue imaginaire avec lui et de voir qu'est-ce qui fait que ce personnage, lui, n'est personne d'autre, en fait, exactement lui-même, et qui n'est pas un ensemble de caractéristiques communautaires ou identitaires, mais que ça, c'est cette personne-là à ce moment-là de sa vie. Et ça passe par une sorte de grand travail de préparation, d'imagination, et ensuite, évidemment, dans le dialogue et la construction avec l'acteur ou le chanteur.
On y reviendra à cette question des stéréotypes. Avant ça, j'aimerais que vous nous racontiez peut-être l'histoire des Indes galantes telle que vous l'avez comprise et telle que vous allez la traduire.
Il y a deux choses qui pour moi sont essentielles. C'est que pour moi, il est question en permanence de malentendus. Des fois, des malentendus conscients et des malentendus parfois inconscients. Des malentendus d'abord de théâtre ou d'équiproquos très simples où les personnages croient parler à un personnage, mais en fait, ils en parlent à un autre. Et d'autres malentendus qui sont totalement inconscients où les personnages pensent parler d'une même chose, mais n'en parlent pas du tout. Comme, par exemple, dans la dernière entrée, le livret confond tout le temps le mot paix et le mot victoire. Il n'y a que le vainqueur pour confondre ces deux termes. C'est-à-dire, on parle de paix impériale. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et il y a aussi l'idée de... quand on me demandait au début qu'est-ce que c'est pour moi les Indes galantes, je disais que c'était des jeunes gens qui dansaient au-dessus d'un volcan. La notion de tension, de conflit, qui est en fait tout le temps sous-jacente. On célèbre la fin de la guerre ou des conflits. En fait, il y a des tensions très fortes dans les interactions entre les personnages et dans la musique. Et au moment où elle pourrait se déployer, il y a toujours un personnage ou une action qui arrive et qui dit en fait tout va bien. Voilà. Et ça pour moi c'est intéressant parce que c'est comme si c'était l'origine de la comédie musicale. C'est-à-dire que la comédie musicale, elle nous raconte que tout va bien, tout le temps. Enfin, c'est... Dans son invention aux États-Unis, c'est dans des périodes très... c'est les 30 Glorieuses ou le 8 siècle, cette idée que d'un divertissement où tout va bien et monter les Indes galantes aujourd'hui, du coup, ça me semble d'autant plus intéressant ou en contradiction, où on a l'impression que c'est le monde qui danse au-dessus d'un volcan, enfin que toute la communauté humaine est en train de danser au-dessus d'un volcan, et que tout ça est au bord de l'éruption, quoi. Que toutes les tensions qui sont nées peut-être à l'époque des Indes galantes, des tensions qui sont autant amoureuse que géopolitique, mais que ces tensions-là géopolitiques qui avaient l'air innocentes, qui avaient l'air de se résoudre très facilement, sont des nœuds extrêmement puissants dont on a hérité aujourd'hui et qui m'intéressent de révéler. Voilà. Je crois que raconter des histoires ou les mettre en scène, c'est révéler des choses, capter des forces, capter des tensions. Et c'est ce que c'est ce que j'essaie de faire.
Ah, précisément, c'est très contemporain. Aujourd'hui, on peut dire que l'être humain vit sans arrêt, soit dans le souvenir d'un conflit et des enseignements qu'il peut en tirer, soit dans l'oubli du conflit et de la préparation au conflit suivant.
Enfin, je ne crois pas du tout que l'histoire se répète. Je pense que c'est une sorte de dangereux lieu commun. Par contre, je pense que l'histoire est hantée et qu'il y a des formes qui reviennent, mais que ce soit l'histoire de l'art. Hein, il y a des mêmes formes qui reviennent, qui se redéploient. Pas exactement jamais de la même manière, c'est pour ça qu'elle ne se répète pas, mais il y a des revenants dans l'histoire et dans les conflits aussi, que les choses qui ne sont pas réglées ressurgissent, quoi.
Quelle est la différence justement qu'on peut trouver dans le théâtre, dans la dramaturgie, entre un stéréotype et un archétype ?
Un archétype, quelque part, c'est un moule. C'est quelque chose qui préexiste, qui est très très lointain. Alors que c'est peut-être le début de la chaîne, et peut-être le stéréotype, c'est la fin de la chaîne. L'archétype, peut-être, il y a tout en substance, et le stéréotype, on a tout perdu. Voilà. Mmh. Et peut-être au milieu, il y a le personnage.
On sait que l'ancien directeur de cette maison, Gérard Mortier, était parti du principe que l'opéra peut servir la communauté à partir du moment où il y enseigne quelque chose. Que donc, si la communauté finance des entreprises aussi lourdes que les productions lyriques, il faut qu'elle puisse bénéficier, en allant à l'opéra, d'un enseignement. Est-ce que quand on est metteur en scène, on se met ce genre de pression sur les épaules en disant, quand le public sortira de la salle, je veux qu'il ait compris ceci ou cela ?
Absolument pas pour moi. Je pense que j'ai aucun enseignement à donner comme metteur en scène et j'ai, comme spectateur, aucun enseignement à recevoir. Par contre, je crois énormément à l'expérience. Je crois que moi, ce que j'attends d'une œuvre d'art, disons, au sens large, que ce soit une peinture, une mise en scène, un film, un roman, que ce soit quelque chose qui me fasse me sentir plus vivant avant que j'y sois confronté. Et que ce n'est pas quelque chose de rassurant ni de confortable de se sentir vivant, mais que c'est intense.
J'imagine que l'une des expériences agréables avec cette pièce, c'est qu'on n'est pas dans une unité géographique et que du coup, plastiquement, la scène peut prendre des tas de directions différentes. Comment vous avez conçu cet univers plastique qui va être la scénographie de vos Indes Galantes ?
Alors, je ne peux pas trop, trop dévoiler, mais il y a quelque chose qui me guide très fort dans mon travail en général, et là particulièrement, c'est de dessiner avec la lumière, mais enfin, avec des éléments de décor qui provoquent de la lumière et que cette lumière soit intégrée au sens des objets qui sont manipulés sur scène et d'essayer de réinventer l'espace en fonction de la manière dont ces objets sont convoqués ou déployés sur le plateau et des images que ça peut produire. Mais là, il y avait une sorte de métaphore qui nous guidait, qui nous guide toujours, qui est d'interroger les lumières par la lumière.
Concrètement, ça se traduit par quoi ?
Ça se traduit par des objets, des éléments de décor qui peuvent être très lumineux et qui peuvent éclairer entièrement des scènes, quasiment seuls, et qui font à la fois décor et à la fois l'éclairage de la scène. Quoi. Voilà.
Ça fait penser à James Turrell ?
Ah oui, ouais. Oui, sauf que ici, là, on sera dans des éléments très... c'est des éléments reconnaissables du vrai monde. C'est pas des éléments... Ça peut être parfois stylisé, mais c'est des éléments de décor très reconnaissables qui appartiennent, si c'est pas notre quotidien, à l'imagerie dans laquelle on... Enfin, une imagerie contemporaine, quoi.
Quand, comme vous, on a l'habitude de travailler avec le mot et avec le verbe, un opéra comme celui-ci présente deux défis, c'est cette double narration, l'air et puis le récitatif qui, chez Rameau, est tellement important. Quel travail vous avez fait sur ces deux aspects de la partition ?
Le récitatif, c'était quelque chose qui m'inquiétait beaucoup quand j'ai commencé à le faire et qui, aujourd'hui, peut-être les passages auxquels je suis le plus attaché, mais presque, dans la mesure où on s'est dit, et si ça pouvait se danser aussi ? Et si le corps réagissait à cette rythmique instable, imprévisible, comment est-ce que ça peut mettre aussi les corps en mouvement ? Alors, de manière absolument pas systématique et en inventant des règles à l'intérieur de ça, mais de dire que voilà, des moments où ça devrait pas danser, ça danse, et puis d'autres moments où ça devrait danser, ça ne danse pas. Et puis aussi, assez logiquement, dans des moments où ça devrait danser, et puis ça dansera.
Les cinéastes qui viennent sur les planches d'une maison d'opéra se posent la question de la juste distance qui existe. Cette distance qui est la présence de l'orchestre, la fosse et puis les premiers rangs qui sont fatalement un peu loin, avec certains partis pris comme chez Ivo Vanov ou Cathy Mitchell avec des gros plans et un écran, ou bien de respecter complètement les conventions du théâtre. Comment est-ce que vous êtes situé par rapport à ça, alors que je le rappelle, vous êtes cinéaste?
Disons qu'il y avait une chose que j'avais envie d'éviter, c'était de faire une mise en scène de vidéaste, quoi. Parce que je viens autant de l'art contemporain et de la vidéo que du film, que du cinéma. Mais de vraiment faire reposer tout le spectacle sur le corps, l'énergie, la présence des chanteurs et des danseurs. Et donc de travailler le gros plan ou la sensation d'intimité autrement, et plutôt par la lumière ou la manipulation de la lumière sur scène. Donc j'avais peur de l'écran sur scène, souvent il me déçoit. Et puis ce type de plateau, ces possibilités, ces chanteurs-là, ces danseurs-là, j'avais pas envie de les avoir pour les filmer. Voilà. Mmh. Et puis moi je passe ma vie beaucoup de mon quotidien est devant des écrans avec des caméras et des projecteurs. Et là, ce dont je suis heureux et fier, c'est de l'engagement des chanteurs, des danseurs, de leur... ils sont exceptionnels. Voilà. Et je suis très heureux de ce choix-là, de pas voir faire reposer ça sur leur image, mais sur leur présence. Quoi.
Parce qu'être plasticien, cinéaste, vidéaste, ça implique qu'on travaille finalement un produit fini, quelque chose sur lequel on a le contrôle. Comment est-ce qu'on gère tout d'un coup l'apparition de l'incidence avec des petits personnages qui bougent, qui éternuent, qui peuvent oublier leur mouvement? Comment est-ce qu'on gère ça, ne fût-ce que psychologiquement?
Très mal, c'est abominable.
C'est vrai.
Ouais, c'est le soir de ma pré-générale et je savais que ça allait être dur, mais je pensais pas aussi dur. En fait, j'aime beaucoup l'incident, l'accident. Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Mais l'avantage du cinéma, c'est qu'on l'enregistre et ensuite on décide ce qu'on en fait. L'étape du montage fait que tout est en chantier et donc quand je suis à une première d'un de mes films, je m'assieds dans la salle, je sais exactement ce qui va se passer. Et là, pour la générale ou la première, ou même pour chaque représentation, tout est possible, et je ne suis pas du tout habitué à cette idée-là. Donc c'est un énorme travail.
Vous êtes angoissé ?
Absolument, oui. Ouais.
Vous avez peur de la violence du public d'opéra ?
Non, pas vraiment. Je ne me rends pas trop compte encore. J'ai plutôt du respect pour, comment dire, l'attachement viscéral qu'on a à l'opéra, qu'il y ait un débat très, très fort. Ensuite, en tant qu'artiste, je fais ce que j'ai à faire. On me confie une musique, on me confie un livret, il y a des images qui viennent, il y a des visions, des désirs, des choses qui apparaissent. Je fais mon travail avec l'intensité et le désir le plus fort possible. Je sais qu'inévitablement, il y a des maladresses, il y a des choses où on aurait pu aller plus loin, et soit on n'a pas eu le temps, soit on ne les a pas vues. Que cette idée de perfection, elle est... petit à petit, on l'oublie, mais que ce qui prime, c'est l'engagement de ma part, de toute l'équipe, de tous les artistes qui seront sur scène. Et ça... Ça, j'ai une confiance absolue en eux, parce que c'est le spectacle, il repose sur eux, et qu'ils peuvent transfigurer n'importe quel événement.
Dernière question, Clément Cogitor, parce que c'est le jour de votre générale et vous avez beaucoup à faire, mais sur la mise en parallèle de deux univers absolument différents, cette salle, Bastille, contemporaine, et puis cette œuvre qui date du XVIIIe siècle, ça fait un peu penser aux compagnies de danse contemporaine qui viennent danser devant des œuvres de la Renaissance italienne, au musée des Offices. Il y a quelque chose du choc des esthétiques qui, en soi, peut être très intéressant. Comment vous le sentez, vous ?
En fait, au tout début, je n'avais pas mesuré la gageure que représentaient les Indes galantes, le baroque à Bastille. Et c'est assez vite après que j'ai compris. Et ensuite, il y a quelque chose qu'il faut préciser, mais que Leonardo préciserait bien mieux que moi, c'est qu'on a des archives de Rameau sur son instrumentation, sur le nombre de musiciens qu'il demandait à Louis XV. Et c'est très très gros. C'est-à-dire que je crois que dans ces grands soirs, c'est plus gros que ce qu'on a dans la fosse en ce moment. Et l'évidence, c'est que ça sonne merveilleusement bien à Bastille. Ensuite, ce qui a du sens aussi, c'est que les Indes Galantes, c'est que c'est une œuvre extrêmement populaire. On sait que les gens chantaient les airs des Indes Galantes dans la rue, et que c'est la vocation de cette maison à Bastille, cette idée d'un opéra populaire, donc ça fait sens. Et voilà, ensuite, on a dû penser dès le début les gageurs que ça représentait pour les solistes, pour la voix. Voilà, de vérifier que la présence ne se perde jamais dans cette grande salle. Voilà, mais quel bonheur de l'entendre dans cette disons avec cet orchestre-là, sous la baguette de Leonardo. Pour moi, c'est vraiment une révélation. Je le réentends de manière extrêmement neuve et juste en même temps.
Merci Clément Cogitor. On pensera bien à vous ce soir, à la pré-générale et toutes les représentations suivantes. C'est jusqu'au 15 octobre à la Bastille.